Excellences, chers séminaristes, mes frères, nous célébrons la solennité de Saint-Pédise. Ce n'est pas aujourd'hui le jour de sa fête, nous le savons tous, je pense, mais puisque le séminaire est dédié à Saint-Pédise, la fraternité est dédiée à lui-même, c'est notre saint patron, nous nous appelons Fraternité Saint-Pédise. Et les séminaristes ne se trouvant pas là au moment de la fête, eh bien, il est bon, il est même exigé en quelque sorte que nous le fêtions lorsque nous sommes tous réunis. Eh bien, je voudrais vous en dire quelques mots. Et que dire de Saint-Pédise? Il y a tant à dire. C'est une vie tellement, tellement grande, tellement belle, tellement remplie, qu'on ne sait pas trop à quoi s'arrêter. On pourrait parler de son esprit de pauvreté, de son esprit de charité. On pourrait parler de sa dévotion toute particulière vis-à-vis de la Sainte Eucharistie. Le pape de la communion précoce et fréquente, ne l'est-il pas? Et on pourrait dire tant d'autres choses. Eh bien, mes frères, je me suis promis de vous dire quelques mots aujourd'hui au sujet de trois points qui m'ont peut-être particulièrement frappé dans la vie de Saint-Pédise. Je voudrais vous parler un peu de son esprit, ce qu'on pourrait appeler en tout cas son esprit d'humilité, tout d'abord. Puis, je voudrais parler de sa vertu de force. Elle est vraiment particulièrement signalée chez lui et dans sa vie, et un peu à toute heure. Et je voudrais dire un mot en terminant de sa dévotion assez particulière à la Très Sainte Vierge Marie. L'humilité de Saint-Pédise, où elle est connue, qu'on jette un regard sur sa vie, et nous le voyons humble à toutes les étapes de sa vie. Il est humble déjà chez lui, devant ses parents, auprès de ses frères et sœurs. Et il est humble lorsqu'il commence à étudier. On le voit, il arrive à conquérir tous ses amis. Et cela ne dénote-t-il pas de l'humilité? On fuit l'orgueilleux, celui qui a toujours raison. Oui, on le fuit. Eh bien, Giuseppe Sarto, on aimait à se trouver avec lui. Et que d'amis lui ont dit que c'est grâce à lui qu'ils doivent d'être devenus de bons chrétiens. Que dire de l'humilité de l'abbé Saint-Pédise? Je passe, c'est assez connu. Que dire de son humilité lorsque, à l'âge de 49 ans, il est nommé évêque de Mantoue? Et l'évêque de Trévis, qui va lui communiquer la nouvelle, se doit, il est obligé de prendre quelques précautions. Il lui remet entre ses mains le bref pontifical qui le nommait évêque. Mais connaissant l'humilité de son chancelier, eh bien l'évêque prend ses précautions et lui dit « il faut accepter ». Et dès qu'il s'aperçoit qu'il s'agit d'une nomination épiscopale, il dit « Non, je ne peux pas. Je n'ai rien pour devenir évêque. » Et il écrira, non seulement il parlera à l'évêque de Trévis, mais il écrira à Rome, au souverain pontife, une lettre pour essayer vraiment de détourner le pape Léon XIII de cette nomination, à laquelle lettre Léon XIII se contentera d'ajouter un mot au-dessous de la signature de Giuseppe Sarto, obéissez. Et voilà comment il acceptera de devenir évêque. Ce sera un peu la même histoire, quelques 10 ans plus tard, alors qu'il avait fait tant de bien à Mantoue et qu'il eût désiré y rester pour poursuivre, achever le bien qu'il s'était proposé de faire et travailler à autre chose dès Mantoue, particulièrement à l'établissement d'un catéchisme général. Eh bien, le voilà nommé cardinal, patriarche de Venise, et là encore, il se récusera. Il demandera au pape de le laisser tomber, de grâce qu'on ne pense pas à lui, il ne veut pas du cardinalat. Mais ce n'est que lorsque il apprend qu'il contriste le pape, ce n'est que cette pensée qui lui fera accepter. J'accepte la volonté de Dieu. Et entre-temps, que de traits l'on pourrait citer pour marquer son humilité, il est encore évêque de Mantoue lorsque il se trouve à Saint-Pierre de Rome. Et là, eh bien, un prêtre qu'il avait connu à Trévise s'apprête à célébrer la messe. Mais il n'y a pas de servant, le prêtre regarde à droite et à gauche. Et l'évêque de Mantoue se présente. « Vous n'avez pas de servant, monsieur l'abbé. Eh bien, je suis là. » « Oh non, je vous en prie, je vous en supplie, ce n'est pas à vous de servir la messe. »« Oh, mais je sais servir la messe aussi bien qu'un acolyte. » Et le prêtre dut obéir à l'évêque, et l'évêque se mit à servir la messe. La même chose se reproduira tandis qu'il est patriarche de Venise. Un prêtre vient également lui demander de pouvoir célébrer sa messe le lendemain matin, mais de bonne heure. Il avait beaucoup de choses à faire en ce lendemain, et le cardinal répond, « Eh bien, je serai là, je veillerai à ce que tout soit prêt. » Et en effet, quand le prêtre arrive pour célébrer sa messe, le cardinal est là, il a tout préparé, il finissait de préparer. Mais le prêtre, ne voyant pas de servant autour de lui, dit au cardinal, « Mais éminence, et qui va me servir la messe ?»« Mais moi-même, » répond-il. Et c'est lui, le cardinal, patriarche de Venise, qui répondit la messe à ce prêtre. Chers séminaristes, comme nous devrions être heureux si nous comprenons bien ce qu'est la messe, de pouvoir servir la Sainte Messe. Autant pour vous, chers frères ou fidèles qui m'écoutez. Quelle humiliation y a-t-il? Y avait-il l'humiliation de se trouver au calvaire auprès de Jésus lorsqu'il mourait? Voilà ce que nous faisons en servant la Sainte Messe. Voilà. Mais puis, tout le monde connaît, c'est devenu légendaire, qu'il ne voulait pas accepter la papauté. Il voit le nombre des voix qui le cherchent, qui veulent l'élire comme pape, augmenter. Et alors il s'écrie, de grâce, ne pensez pas à moi, je ne veux pas, je ne peux pas accepter, je n'ai pas ce qu'il faut pour devenir pape. Et il proteste. Mais le nombre des voix augmente à chaque tour de conclave. Et on voit bien qu'il va être l'élu, il va se cacher, il va prier devant le Saint-Sacrement dans la chapelle Pauline. Et le secrétaire du conclave, le futur cardinal Méry Del Val, son secrétaire d'État, doit venir le chercher. Il est là, la tête dans la main, la figure pleine de larmes. « Éminence, éminence, on vous attend, mais de grâce ne mettez pas d'obstacle. Je ne peux pas accepter, dit-il. » Deux cardinaux viennent et chacun parlera. Et lui parleront de quelle façon j'aimerais pouvoir raconter tout cela. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Il se laisse traîner en quelque sorte dans la salle du conclave. Il ne sait que répondre. Il donne une réponse plutôt vague pour accepter la papauté. Et on est obligé de lui reposer une deuxième fois la question « Acceptez-vous ?» Et on lui demande de parler clairement. Et alors, il a répondu, « Si ce calice ne peut passer sans que je le boive, eh bien, Seigneur, que votre volonté soit faite, j'accepte comme une croix. » Quelle humilité nous constatons en lui. Et pape, il restera aussi humble encore. C'est vraiment frappant. Oui, douceur, humilité du pape, cela va ensemble. Jésus était doux et humble de cœur. Saint Pie était doux et humble de cœur. Mais je dois passer rapidement. Et puis, j'ai promis de vous dire un mot de sa vertu de force. Faut-il en parler alors que la Sainte Église elle-même en parle dans l'oraison de sa fête ? Apostolica fortitudine replevisti, vous avez rempli votre serviteur Saint Pie de la force des apôtres. Et quelle force n'ont-ils pas dû avoir les saints apôtres pour lutter contre la synagogue, pour lutter contre le paganisme mondial qui régnait à ce moment-là. Eh bien, Saint Pie luttera également de toutes ses forces comme vicaire, comme curé, comme chancelier, comme évêque surtout. Oh, il luttera. Mais que dire de ses luttes, de son combat lorsqu'il devient pape et qu'il voit la grande erreur du modernisme, celle que nous connaissons, contre laquelle nous luttons et nous devons lutter de toutes nos forces à l'heure actuelle. Il la voit se lever, il cherchera à l'écraser. Et de fait, il l'écrase. Mais en attendant que la mauvaise herbe enlevée par lui se renouvelle et avec plus d'audace encore en nos jours. Mais n'empêche, il suffit de lire pour connaître la force, l'esprit, la vertu de force en Saint Pie, de lire sa vie de pontife et particulièrement peut-être son encyclique Pascendi. Il montre comment cette erreur moderniste est le résumé de toutes les hérésies, qu'il faut faire attention, qu'il faut combattre. Il détrône ce qui prêchait le modernisme. Il condamne cette hérésie et il sait mettre en valeur des personnes, vraiment des hommes, des prêtres, qui n'avaient pas peur de lutter contre le modernisme. Que ne pourrait-on pas dire encore, mais dites, chers séminaristes, est-ce que nous ne sommes pas formés là? Est-ce que la fraternité n'est pas formée? Est-ce que le séminaire d'Écône n'existe pas pour précisément détruire cet esprit moderniste? Et nous avons fort à faire, car il renaît. Et comme le pape Pie X le dit dans l'encyclique Pascendi, il renaît, Satan s'est inspiré sous différentes formes et il est à craindre que nous-mêmes, nous ne nous laissions prendre. Prenons garde vraiment. J'ose vous lancer cet appel, chers séminaristes, chers fidèles, nous irons bien à la messe traditionnelle. Mais peu à peu, un certain esprit et du monde et du modernisme passe chez nous, pénètre chez nous, entre chez nous, et nous finissons par trouver cela tout naturel. Luttons de toutes nos forces et demandons à Saint Pédis aujourd'hui, ou au bon Dieu, par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge et de Saint Pédis, d'avoir nous aussi un esprit de force apostolique. Voilà de quel prêtre on a besoin à l'heure actuelle. Prêtre et futur prêtre courageux, qui n'aient pas peur d'être les vrais témoins du Christ. Vous serez mes témoins sur terre jusqu'aux extrémités de la terre. Certes, il y a de nos prêtres qui travaillent, il faut voir comment, avec cet esprit certainement apostolique, mais sommes-nous tous prêts à cette tâche ? Décernons ou cernons l'erreur, connaissons-la, combattons-la, et je redis, de toutes nos forces, comme Saint Pédis, comme notre vénéré fondateur, qui suit vraiment l'esprit de Saint Pédis. Et je terminerai volontiers, mes frères, en vous disant un tout petit mot de la dévotion de la Très Sainte Vierge, de celle qui écrase de son pied virginal toutes les hérésies, toutes les erreurs. Si nous avons une vraie dévotion à la Sainte Vierge, eh bien l'erreur ne pourra pas pénétrer en nous. Le modernisme ne pourra pas pénétrer ou ne pourra pas demeurer en nous. Elle se charge, elle, d'écraser. Et surtout, cette hérésie résumée de toutes les hérésies qui ont eu cours pendant toute l'histoire de l'Église. Et Saint Pédis aimait la Sainte Vierge. Oh, enfant encore, il aimait à aller dans une chapelle, Notre-Dame, dédiée à Notre-Dame de Chendrolles. Je sais pas à quelle distance, disons 1,5 km, 2 tout au plus, de chez lui. Il allait là, et après une bonne prière, il allait cueillir des fleurs toutes blanches qu'il trouvait dans le pré à côté. Et il était heureux de venir poser ses fleurs toutes blanches sur l'autel qui est dédié à la Très Sainte Vierge. Oui, et il aimait la Sainte Vierge. Il la voyait dans toute sa beauté, toute sa pureté, sa virginité. Et c'est par là même qu'il obtenait de rester si pur lui-même. Et puis, il prendra même de la joie à y venir avec ses petits amis et à leur faire réciter le chapelet devant la Vierge de Chendrolles. Et que dire cette dévotion pendant toute sa vie, je dois passer, j'arrive à sa papauté, et à peine, même pas tout à fait 6 mois après qu'il a été élu pape, élu, si je ne me trompe, un 4 août 1903, on est encore seulement au 2 février 1904, et c'est le 50e anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée par le pape Pie IX. Et alors il proclame une indulgence plénière, un jubilé en l'honneur de la Sainte Vierge. Et il écrit cette admirable encyclique « At illum diem laetissimum » pour proclamer ce jubilé. Et c'est là vraiment qu'on voit le cœur marial de notre pape Saint Pédis. Ah, il aimait la Sainte Vierge, il voudrait que tout le monde comprenne qu'elle est mère. Mais pas seulement mère, mais médiatrice. Oh, il montre déjà qu'elle est co-rédemptrice, en parlant précisément ou en disant qu'elle a préparé la divine victime du calvaire. Elle lui a donné un corps humain qu'il fallait pour offrir le sacrifice qui pouvait racheter l'humanité. L'homme-Dieu, il fallait un Dieu, mais un Dieu uni à une nature humaine. C'était un homme, homme-Dieu, qui devait se sacrifier. Elle est heureuse de lui fournir ce corps virginal. Et il lui faudra donner son consentement pour qu'il devienne victime. Elle donne généreusement ce consentement à Dieu. Son fils va devenir victime pour le rachat du monde, notre rédemption. Et elle-même veut travailler, veut collaborer avec son divin fils pour notre rédemption. Oh, comme il connaissait bien cette vérité, et il en parlait. Non seulement il lui a donné son consentement, dit le pape Pie X dans cette magnifique encyclique que nous devrions connaître, mais elle l'a assisté dans sa passion, elle a collaboré avec lui pour notre rédemption, et c'est pourquoi elle est là, debout, larmoyante sans doute, mais généreuse, debout au pied de la croix. Oui, ça, cela nous montre cette dévotion exceptionnelle de Saint Pie X. C'est comme cela qu'il a pu déceler les erreurs. C'est comme cela que nous les décelerons. Elle est ennemie de toutes les erreurs, la Très Sainte Vierge. Elle a été choisie par Dieu pour réfuter le mensonge du serpent antique qui avait menti à nos premiers parents. Par elle, nous connaîtrons la vérité. Alors, en ce jour, demandons à Saint Pie X de partager la grande, la très délicate dévotion qu'il a eue à la Très Sainte Vierge, et demandons à Saint Pie X que l'on trouve encore un pape de sa trempe pour briser l'erreur de nos temps. Oh, que j'aime cette parole du pape Pie XI, disant à son secrétaire d'État, « C'est vous qui devez me succéder, il n'y a que vous !» Que de fois il le lui a dit. Lisons la toute dernière vie sur Pie XII, qui a été écrite il y a seulement 2 ans. Lisons-la, et nous verrons combien de fois Pie XI a annoncé au cardinal Pacelli qu'il serait son successeur. Un jour, le cardinal a été un peu agacé, semble-t-il. Il se possédait, mais tout de même, et il répondra, « Très Saint-Père, ce n'est pas aux hommes de décider cela. » Et Pie XI répondra, « Vous avez raison, mon très cher cardinal. » Vous avez raison, et c'est pourquoi je m'adresse au Saint-Esprit, pour qu'il arrange les choses ainsi. Il n'y a que vous qui puissiez me succéder, je n'en vois pas d'autre dans toute la Sainte Église. Il voyait clair. Et non seulement cela, figurez-vous, qu'au même moment le pape Pie XI a ajouté, « Et je prie pour que dans un séminaire quelque part, sur notre terre, on forme encore un autre qui vous ressemble et qui soit capable à son tour de continuer votre travail. » Oui, il a été intuitif quelquefois, plusieurs fois, le pape Pie XI. Oui, et alors, eh bien, demandons à Saint Pie X qu'il y ait de nouveau un pape capable vraiment de briser l'erreur. Il disait, c'est à croire que l'Antéchrist a déjà fait son entrée au monde. L'homme adoré à la place de Dieu, c'est bien ce que nous vivons à l'heure actuelle. On a mis le bon Dieu, le Saint-Sacrement, de côté, on ne sait plus où le chercher, mais l'homme est assis à la place du tabernacle ou devant le tabernacle. Eh bien, demandons que ça en finisse vraiment et que triomphe et la très sainte Vierge Marie et par elle son divin fils Jésus. Regnum Christi et Mariae veniat. Ainsi soit-il. In nomine non du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Chers séminaristes, mes frères, le 19 mars dernier, je vous disais que on trouvait trace de la fête de Saint-Joseph fixée au 19 mars dans des martyrologes du haut Moyen-Âge. Ainsi soit-il. Chers séminaristes, mes frères, le 19 mars dernier, je vous disais que on trouvait trace de la fête de Saint-Joseph fixée au 19 mars dans des martyrologes du haut Moyen-Âge. La fête de Saint-Joseph que nous fêtons aujourd'hui est évidemment beaucoup plus récente. Je voudrais, si vous voulez bien, faire le point historique sur la célébration de cette fête, la solennité que nous célébrons donc aujourd'hui. Je voudrais vous montrer en second lieu comment Saint-Joseph doit être notre patron, notre modèle sur le plan zèle apostolique. On ne voit pas tout de suite la relation, peut-être. J'essaierai de vous en parler. Et en troisième lieu, eh bien, je voudrais vous montrer les relations entre le temps pascal que nous vivons à l'heure actuelle et cette fête de Saint-Joseph que nous célébrons aujourd'hui. Alors, un peu d'histoire, si vous permettez, au début. Cette fête, qui ne s'appelle pas depuis longtemps la fête de Saint-Joseph artisan, elle était connue sous un autre nom. Elle a porté le nom de patronage de Saint-Joseph, puis de solennité de Saint-Joseph. On y a ajouté, mais ajouté, le nom de Saint-Joseph artisan. Alors cette fête, donc, instituée par Pie IX, dès le début de son pontificat, qui est de 1846, fut plus tard rendue obligatoire pour toute l'Église universelle. Et le même pontife déclara Saint-Joseph patron de la famille catholique opprimée. C'était au moment où les armées d'un certain Victor Emmanuel II se trouvaient à Rome et saisissaient les États pontificaux. L'objet de cette fête, et on lui donna donc à ce moment-là, lorsqu'elle devint fête de l'Église universelle, on lui donna le nom de patronage de Saint-Joseph. L'objet de cette fête est la fonction spéciale, mystérieusement confiée au très pur époux de Marie, en vertu de laquelle, de même qu'il tenait la place du Père éternel dans la sainte famille de Nazareth et en exerçait le pouvoir paternel, la patria potestas, sur Jésus et Marie, et il entoure maintenant de ses soins paternels, Saint-Joseph, entoure maintenant de ses soins paternels l'Église catholique. Extension et continuation de la société domestique de Bethléem et de Nazareth. En d'autres termes, le décret de la Sacrée Congrégation des Rites daté du 8 décembre 1870, où Saint-Joseph est déclaré patron de l'Église universelle, n'est pas tant une libre élection de Pie IX comme cela arrive parfois pour d'autres saints, choisis comme patron et cité, et patron de cité ou d'institut, que la reconnaissance authentique d'un mystère évangélique et d'une disposition ineffable de Dieu envers la grande famille catholique qu'est la Sainte Église. C'est à retenir, me semble-t-il. Cette fête du patronage de Saint-Joseph fut d'abord fixée au troisième dimanche après Pâques. Mais quand, lors de la réforme liturgique de Saint-Pédis, on voulut restituer l'office dominical, on voulut lui restituer la préséance sur celui des saints, l'office de Saint-Joseph, lui aussi, dut céder sa place et on le fixa au mercredi précédent. En compensation, la fête fut élevée à l'honneur de solennité de Saint-Joseph, solennité de première classe suivie d'une octave par Saint-Pédis lui-même. Enfin, le pape Pie XII, voulant christianiser la fête du travail, qui avait fait jour depuis quelques années déjà, et qui devenait plus ou moins fête païenne, voulant donc la christianiser, il reporta cette fête de la solennité de Saint-Joseph au 1er mai, en lui ajoutant le titre de patron des artisans. Eh bien, voilà donc un petit récit historique qui nous renseigne sur cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Et retenons que lorsqu'elle a été instituée, ce n'était pas un libre choix de Pie IX, c'était mettre en évidence une fonction de Saint-Joseph que Dieu avait confiée à ce grand saint, mise en lumière. Il était patron putatif, pas seulement du Fils de Dieu, mais de tout le corps mystique. Et voilà, je pense, comment Saint-Joseph est également le modèle des prêtres et des futurs prêtres. Ô combien il a veillé sur le Fils de Dieu, et de même, il veille aujourd'hui sur la Sainte Église. Et si vous lisez attentivement la théologie mariale du Père Garrigou-Lagrange, le chapitre spécialement qu'il a consacré à Saint-Joseph, il compare Saint-Joseph à tous ces grands saints qui ont entouré notre Seigneur. D'abord, Saint-Jean-Baptiste, le précurseur qui annonce la prochaine arrivée de Jésus, souverain prêtre. Puis, il le compare aux apôtres, qui ont proclamé le message évangélique que leur avait enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Et il conclut que Saint-Joseph occupe un rang plus grand. Premièrement, il a vécu très longtemps auprès de notre Seigneur. Il était chargé non pas de publier le grand mystère de l'incarnation, mais de le cacher. Il fallait attendre l'heure de Dieu pour le divulguer, et Saint Joseph saura en garder le secret. Jamais il n'en parlera, si ce n'est peut-être à sa très sainte épouse. mais son rôle auprès de Jésus et auprès de l'Église ne le diminue pas pour autant. Et le père Garrigou Lagrange cite la parole de notre Seigneur dans l'Évangile, « Le plus petit, le plus humble, le plus caché parmi vous est le plus grand dans le royaume des cieux. » Il est sûr que Saint Joseph était plus caché au cours de sa vie, plus caché aux yeux des hommes que n'a été Jean-Baptiste à partir du moment où il s'est mis à prêcher, plus caché que la vie des apôtres, lesquels, à partir de la résurrection et surtout de la Pentecôte, ne cesseront de proclamer le message évangélique. Mais retenons que Saint Joseph, Père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est également de proclamer par Pie IX, par la Sainte Église, Père de l'Église universelle et surtout de l'Église opprimée. Et si l'Église a été opprimée en bien des circonstances, à plus forte raison l'est-elle de nos jours, l'épreuve de l'Église, n'est-il pas vrai, est bien plus grande à l'heure actuelle qu'elle ne l'a jamais été au cours de son histoire. Et donc, combien, chers séminaristes, chers prêtres, combien nous devrions avoir recours à Saint Joseph pour lui demander le zèle qu'il a déployé vis-à-vis de notre Seigneur et vis-à-vis de la Sainte Église, car il en est le patron et ce n'est pas pour rien qu'on l'a placé ainsi, qu'on l'a honoré de la sorte. Certainement, il doit obtenir de très grandes et très nombreuses grâces à la Sainte Église, d'où la belle prière de Léon XIII, que nous ne saurions trop répéter, et de même qu'autrefois, vous avez défendu l'enfant Jésus au péril de la mort. Défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu de tous les obstacles, de toutes les difficultés qui l'entourent, de l'erreur du modernisme, du libéralisme. Combien nous devrions l'invoquer à ce sujet? Combien nous devrions avoir le zèle de Saint Joseph? Il lui en a fallu du zèle pour garder son secret pendant une trentaine d'années. Et il pouvait, sur le plan naturel, humain, être tenté d'en parler, de se faire honorer. N'était-il pas le père putatif du Fils de Dieu? Eh bien, Dieu lui demandait le secret, c'est avec le plus grand zèle qu'il le gardera. Mais il savait bien, étant de la lignée de David, et il aurait dû être roi, si roi il y avait eu encore en Israël, il savait bien que Jésus aurait dû lui succéder, et qu'il était le vrai successeur du roi David, mais en vue d'un royaume spirituel, le royaume qu'est la Sainte Église. Combien profondément Saint Joseph a compris ce mystère. Alors, demandons-lui de nous aider tout simplement dans notre rôle sacerdotal. Le 19 mars, je vous disais combien nous devrions imiter sa chasteté, sa pureté, lui qui a dû porter l'enfant Jésus, tandis que nous devons le porter la Sainte Hostie, mais nous devons le distribuer aux âmes et attirer les âmes à l'Église pour qu'elles arrivent à faire partie du corps mystique du Christ Jésus. Prenons-le comme modèle. Et enfin, Essayons de le considérer dans les relations qu'il peut avoir avec le mystère pascal que nous célébrons à cette époque. Et qu'est-ce que c'est que le mystère pascal, sinon le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Le mystère pascal n'est pas uniquement la célébration de la résurrection. Et la mort de notre Seigneur, son ensevelissement, sa résurrection ne forment qu'une seule et même fête, qu'un seul et même mystère. Et quelle relation y en a-t-il avec Saint Joseph? Relisez encore l'ouvrage du père Garrigou Lagrange et vous verrez qu'il ne craint pas de citer Saint Joseph. Et c'est pour cette raison qu'il a été proclamé patron des agonisants, des mourants. Il parle donc, ce théologien, de la mort si belle, si précieuse devant Dieu, du grand saint que nous célébrons. En un sens, sa mort est plus belle que celle de la très sainte Vierge. Et pourquoi donc? Oh, le père Garrigou, citant saint François de Sales, Suarez et d'autres, ne craint pas de dire que saint Joseph n'a pu avoir qu'une mort d'amour, tout comme la très sainte Vierge Marie et comme Jésus lui-même sur la croix, qui mourait d'amour pour son Père auquel il obéissait et d'amour pour le genre humain qu'il voulait sauver. De même la très sainte Vierge, mais de même également saint Joseph, comprenant le rôle de notre Seigneur, il ne pouvait vivre et mourir qu'aux mêmes intentions de sa très sainte épouse et de son fils putatif. Et d'où cette belle mort? Il meurt de quelle façon? Dans les bras de Dieu. Est-ce possible? C'est pourtant la vérité. Il meurt dans les bras de notre Seigneur qui était Dieu. Ah, quelle mort! La Sainte Vierge est morte, dit-on, s'est endormie, entourée des apôtres. Mais Saint Joseph est mort dans les bras même du Fils de Dieu et entouré de la tendresse de la Reine du Ciel. Précieuse mort entre toutes. Et par là même, eh bien, demandons en ce temps pascal et en cette fête de Saint Joseph la grâce du bien mourir, la grâce de mourir saintement dans l'intimité et de notre Seigneur et de la très sainte Vierge, comme cela lui est arrivé à lui-même. Il est patron des mourants, patron des agonisants. N'oublions pas que Saint Pie X a composé une si belle prière. On n'en cite que quelques lignes, à tout au plus 3-4 lignes, pour gagner une indulgence plénière à l'heure de la mort. Mais la prière de Saint Pie X est bien plus longue. Elle comprend bien de 12 à 15 lignes. Elle est sublime, cette prière. Comme nous devrions et la connaître, et l'aimer, et la réciter, afin de mourir, comme le demande si bien Saint Pie X, à l'exemple de Jésus lui-même, le souverain prêtre, à l'exemple de Saint Joseph, à l'exemple de la très sainte Vierge Marie, qui est morte d'amour. Puissions-nous en vrai et digne prêtre mourir dans l'intimité de Jésus et de Marie et être ainsi assurés de la couronne de la béatitude éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.